Radio Campus présente, comme chaque mercredi, à 17h30, le magazine Lille 1 Info. Avec aujourd'hui Jean-Louis Coget, qui est directeur du QEP de, alors, du QEP de Lille, de Lille 1, comment on dit ?
Le QEP, c'est le nom donc d'une composante de l'université de Lille 1. Voilà, on dit le QEP comme nom de composante, et effectivement. Alors QEP, ça veut dire peut-être déjà centre université tiré économie, c'est important, d'éducation permanente.
Des QEP, il n'y en a qu'un en France ?
Oui, on est une composante de l'université de Lille 1, et voilà, donc on appartient à part entière, on est attaché à part entière à Lille 1.
Un nom déposé ?
Presque, parce que dans l'histoire de l'université des sciences et technologies de Lille, Flandre Artois à une époque, effectivement, il y avait des centres sur le littoral qui étaient rattachés à cette université. Et au moment de la création de l'ULCO, effectivement, nos centres ont été rattachés à cette université du littoral, mais on souhaitait garder le nom. Donc, en définitive, vous n'avez pas tout à fait tort, il existe un QEP littoral, mais c'est plutôt une descendance historique qu'un rattachement.
Si on prend d'autres villes comme Salomine, par exemple.
Voilà, tout à fait. Alors, ça, c'est effectivement, là, on est dans les activités de la composante QEP. Et effectivement, historiquement, bien sûr, elle a eu des activités universitaires, mais fondamentalement, elle s'est créée dans les années 70 autour des actions collectives de formation et qui concernaient des activités de reconversion par rapport aux demandeurs d'emploi et par rapport aux bassins d'emploi en difficulté. Alors, à Salomine, c'était particulièrement le bassin minier. Et également à Tourcoing, c'était les problèmes de l'industrie textile de l'époque.
De reconversion, on va dire.
De reconversion. Mmh.
Donc effectivement, dans ces moments, j'allais dire douloureux, où il fallait que de nombreuses personnes envisagent de changer de carrière très rapidement,
voilà.
Le QEP était d'un précieux secours.
Je pense, on en est convaincu. Enfin, en tout cas, on a tout fait pour avoir une action positive par rapport à cette situation sociale difficile. Alors, il faut savoir que nous appartenons depuis toujours à l'université, mais il faut savoir que nos actions de formation concernaient plutôt quand même les bas niveaux de qualification et les ouvriers. Et ce qui fait qu'on a donc une forte expérience que l'on continue d'ailleurs actuellement de nourrir autour d'actions de remise à niveau en formation générale et voire même de lutte contre l'illettrisme.
Alors, votre force de frappe pédagogique, elle est composée à partir de quel personnel ?
Voilà. Alors donc, nous sommes dans une situation, comme beaucoup d'organisations et d'organismes de formation d'ailleurs, on est en complète transformation. Donc actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais nous sommes 150 personnes. Et pour simplifier, il y a un tiers de personnes qui sont contractuelles, on pourrait presque dire de droit privé, quoi, quelque part. Un tiers de personnes qui sont fonctionnaires, mais dont on finance le support budgétaire, ce qu'on appelle les emplois gagés, et un tiers de fonctionnaires, et dont la plupart d'ailleurs sont plutôt des enseignants qui travaillent dans la filière, dans notre département sciences de l'éducation.
Mmh. Alors, quand on voit actuellement les politiques ministérielles qui visent à faire rentrer les enseignants dans leurs écoles, leurs lycées, est-ce que ça a des conséquences par rapport à votre organisme ?
Écoutez, pas particulièrement pour le QEP. J'avoue ne pas être encore au fait des détails et de ce qui pourrait advenir dans les années prochaines. Mais effectivement, nous avons des personnels qui sont plutôt de statut proches de ceux des lycées, les certifiés, comme on dit, les agrégés, et ils sont rattachés à l'université. Et donc, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de détachement, si vous voulez, de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur. C'est pas sur cette base-là que ces personnels ont été recrutés. Donc, alors maintenant, quant au remplacement par rapport au départ en retraite, etc., etc., là, on est dans la politique globale, d'ailleurs, qui ne concerne pas que le CUEP.
Alors, le fait d'avoir des personnels qui soient fonctionnaires, par exemple, pour partie, hein, je pense.
Oui, oui.
Est-ce que par rapport à d'autres organismes qui sont davantage privés, oui. ça a des incidences sur, par exemple, les appels à candidature sur des projets, sur des cahiers des charges, etc.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une très grande majorité. Donc, on a effectivement, donc on pourrait dire deux tiers de personnel fonctionnaire, mais dont un tiers, dont la moitié. Donc, nous finançons en définitive, on rembourse l'État, hein, quelque part sur nos propres ressources. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, et je rappelle donc que la plupart des fonctionnaires sont rattachés à des activités de formation initiale, de type universitaire, licence, master en sciences de l'éducation, formation d'adultes. Mmh. Voilà. Alors, c'est vrai que, et de fait, nos activités, une bonne partie de nos activités de formation continue sont de toute façon, comment dire, exercées avec des personnels dont on finance les supports budgétaires. Et donc nous sommes soumis aux mêmes conditions que les associations ou les organismes privés. Donc actuellement, par exemple, au niveau du conseil régional, il va y avoir un marché qui va s'ouvrir sur les programmes de formation. Et donc nous avons tout à fait... Enfin, nous sommes tout à fait légitimes pour pouvoir postuler sur ces marchés, etc., dans la mesure où il n'y a pas, a priori, de subventions, ou en tout cas, elles sont relativement minimes par rapport à ces activités-là. Hein, il n'y a pas de dotation de l'État sur nos activités de formation continue, par exemple.
Voilà, donc effectivement, maintenant, la règle, c'est l'appel d'offres.
Oui.
Pour toute commande publique, on va dire. Est-ce que dans ces appels d'offres, il y a des missions nouvelles ?
Des missions.
Par exemple, des besoins nouveaux en termes de formation
C'est-à-dire que des besoins nouveaux, sûrement, bon, avec les événements récents liés à la crise économique et donc par rapport à la situation des salariés, etc., il y aura sûrement des missions nouvelles qui vont émerger. Mais actuellement, on ne peut pas dire que ce soit des missions nouvelles. Il y a un nouveau cadre d'appel. Les appels d'offres ont toujours existé. Ils étaient auparavant en mode subvention. Il en existe d'ailleurs pour certaines activités. Il existe toujours ce mode subvention. Si vous voulez, le marché de la formation continue qui va être ouvert par le conseil régional est défini. C'est pas des missions qui changent, mais il y a des redéfinitions peut-être des activités plutôt, plutôt que des missions. Hein. Il y a un cadrage différent, il y a des fusions d'activités qui seront présentées pour lesquelles on devra répondre, etc. Il y a une redéfinition du cadre d'activité. Des missions en tant que telles, non, on ne peut pas dire, pour l'instant, on n'en est pas là.
Alors, on a des chiffres du chômage qu'on a régulièrement. Est-ce qu'ils, enfin, je ne vous demande pas forcément de trancher, hein, mais est-ce qu'ils reflètent réellement l'aspect concret des gens qui n'ont pas de travail, ou est-ce qu'il y a des populations qui échappent à ces façons de compter et qu'il faut quand même prendre en compte par le biais de formation, notamment de formation continue pour des gens qui ont arrêté? Est-ce qu'on peut encore appeler ça de la formation continue? Mais à vous de le dire.
Bah, écoutez, oui, je sais bien qu'il y a une il y a discussion, on va dire, autour du comptage et des chiffres de demandeurs d'emploi. Il y a des catégories différentes, etc. Donc les chiffres officiels sont ceux de la catégorie 1. Mais effectivement, nous avons dans nos formations et nous accueillons et nous accompagnons toutes les catégories de demandeurs d'emploi. Si c'est effectivement, bon, pour nous, c'est effectivement un panel beaucoup plus large que ces catégories 1 en recherche d'emploi. Qu'on a éloigné Peut-être que malheureusement cela va changer faute de capacité d'emploi, mais justement ces demandeurs d'emploi de catégorie 1 étaient plutôt éloignés de la formation ces derniers temps, avec une priorité vers l'emploi. Hein, et donc notre travail se faisait autour de toutes les catégories de demandeurs d'emploi ou de personnes sans activité. RMI, etc. Enfin, oui, tout à fait. Oui, ça, nous, c'est pas du tout autour de. Pour nous, nos stagiaires ne sont pas uniquement sur cette catégorie-là. Oui.
Alors, quand vous dites des stagiaires, ils ont quel statut pour vous? Usagers, clients.
Oui. Alors bon, non. Alors donc, il faut quand même notre histoire. Hein, bon, je l'ai un peu tracée tout à l'heure. Notre histoire, c'est quand même. Elle est liée à l'éducation permanente, hein, on l'a dans notre nom, pour nous c'est important, dans la promotion sociale, même, bon, jusqu'il y a encore peu de temps, c'était plutôt un vilain mot, un peu ringard, etc., et puis je sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais on le voit renaître, bon, donc comme quoi, bon, on n'était pas totalement à côté de ce qui pouvait se faire, et en tout cas à côté de la demande sociale. Mais non, alors, ils sont de plusieurs types. Alors, c'est un petit peu la difficulté que l'on peut avoir par rapport à la perception de notre organisme. C'est-à-dire, effectivement, nous avons des demandeurs d'emploi qui sont pour nous des stagiaires, voire des usagers, enfin, voilà. Et effectivement, nous avons aussi des activités sur ressources propres, hein, qui ne dépendent pas ou de subventions ou du mode marché, etc., des financeurs publics, et pour lesquels, là, effectivement, on a plutôt affaire à des clients. Ce n'empêche que la démarche pédagogique est identique.
Au départ de cette démarche pédagogique, il y a une forme de bilan de compétences de la personne qui vient ?
Alors, nous avons des activités extrêmement orientées, quasiment exclusivement orientées vers la formation. Hein. La formation, voire aussi la formation de formateurs d'ailleurs. Et on n'a pas d'activité de bilan. En cela, c'est la volonté d'être complémentaire par rapport au service de formation continue de l'université, le SUDES. Mm-hmm. Hein, et donc c'est lui qui joue ce rôle avec son centre de bilan, mm-hmm. etc. Et donc voilà, on complète nos activités. Alors, à l'entrée de la formation, effectivement, surtout quand on doit faire un parcours complexe de formation générale et par rapport au projet de la personne, il y a les évaluations nécessaires au niveau, bon, pour déterminer les niveaux en expression écrite orale, en mathématiques, etc., etc. Il y a un accompagnement qui est assuré, il y a un bilan et il y a une construction du parcours de formation qui est faite en amont du début de la formation. Mais ce n'est pas un bilan de compétences au sens propre du terme, tel que dans l'acception actuelle.
Donc les personnes qui viennent, une partie provient suite à une proposition de la NPE, par exemple. Enfin, maintenant, je sais que la NPE a été fusionnée avec...
Pôle emploi. Oui, alors, c'est ce que je vous disais. Oui, bien sûr. Alors, il y a, de toute façon, il y a des prescriptions, ce qu'on appelle des prescripteurs, hein, qui suivent aussi sur d'autres aspects que la formation, notamment les demandeurs d'emploi. Et donc, effectivement, des stagiaires sont envoyés par le Pôle emploi maintenant, ou ce qu'on appelait la NPE, par les missions locales, mm-hmm. aussi, parfois par des centres de bilan également, etc. Voilà.
D'accord. Donc, a priori, vous avez des groupes qui sont constitués par rapport à un programme. Hein. Dans ces groupes, il y a combien de personnes ?
Alors, on essaye, si vous... Alors, on essaye le plus possible de favoriser les parcours individualisés de formation. Mm-hmm. Hein, je ne réponds pas tout à votre question, certes. Mais donc, en aucun cas, ce sont les prescripteurs nous envoient, à quelques exceptions près, nous envoient assez de stagiaires pour pouvoir constituer le groupe. Hein. Donc, on constitue des parcours de formation. En fonction des objectifs pédagogiques par matière, par niveau, si je puis dire, on constitue les groupes et on fait en sorte de fonctionner entre 15 et 20 stagiaires. Alors, il arrive parfois de déborder le nombre de 20 parce que, bon, on est soumis aussi à des contraintes financières, etc., etc. Mais bon, en général, les groupes sont entre 15 et 20 stagiaires.
C'est quoi la différence entre un groupe au QEP et une classe dans un lycée ?
Les objectifs les objectifs sont différents, hein, et la pédagogie est, même si ce n'est pas pour moi un jugement par rapport au lycée, je pense qu'il se fait une pédagogie innovante dans la mesure de leurs possibilités, de leurs moyens, mais pour nous, la différence, elle est fondamentalement dans l'approche de la personne par rapport à son projet personnel, par rapport à sa demande, par rapport à ses objectifs, et aussi par rapport à une volonté d'individualiser la formation. On développe beaucoup de formations individualisées, parfois à distance, etc. Et je pense qu'on offre un panel beaucoup plus diversifié et on peut très bien se retrouver en groupe, parce que ça peut être aussi une approche pédagogique intéressante, mais aussi aller dans un centre de ressources ou dans un atelier de pédagogie personnalisée pour compléter sa formation.
Mmh. Alors, vous parliez de projets personnels. Est-ce que souvent les gens qui viennent chez vous ont déjà une idée vraiment de ce qu'ils veulent apprendre pour faire quoi en plus? Ou est-ce que parfois ils sont un peu en perdition et que vous les remettez sur des rails
Oui, effectivement, là aussi, on a, on a tous les cas de figure, tous les types de demandes. Hein. On peut effectivement avoir. Alors, bien sûr, quand on fait des formations qualifiantes plutôt dans la filière sciences de l'éducation. Donc, auquel cas, moyennant l'orientation adéquate en fonction du niveau de la personne, elle sait très bien qu'elle vient pour être formateur d'adultes, mm-hmm. hein, pour faire de l'ingénierie de formation, pour faire de l'ingénierie pédagogique multimédia. Bon, là, on est dans une approche universitaire telle qu'elle est aussi gérée dans d'autres composantes. Mm-hmm. Hein. Parfois, les personnes, pour le DAE, ils viennent avec l'objectif d'acquérir l'équivalent du baccalauréat. Mm-hmm. Donc là, l'objectif est atteint. Mais c'est sûr que dans des centres comme celui de Salomines ou de Tourcoing, où on a des stagiaires qui ont des niveaux de qualification, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un niveau de qualification plus bas, si je puis dire, n'a pas d'objectif. Mais en général, les personnes sont plus, effectivement, ont besoin de qu'on les aide plus à créer leur parcours, à leur éclairer une voie, etc. Et parfois, d'ailleurs, pour les aider, on peut utiliser des propositions qui sont encore d'ordre pédagogique, mais qui sont une approche plus culturelle. C'est pas qu'un apprentissage didactique de connaissances disciplinaires, etc. Il peut y avoir des approches culturelles, il peut y avoir des approches plus expérimentales, voilà.
Mm-hmm. Alors, Jean-Louis Coget, vous parliez tout à l'heure de l'expérience du QEP qui date des années 70, on peut dire. Donc, au fil du temps, si on prend des points de repère tous les 10 ans, qu'est-ce qui change par rapport, par exemple, à l'approche des gens dont on vient de parler? Est-ce que ça, vous voyez un changement sociétal quelque part? Vous en êtes témoin?
Oui. Alors, si vous voulez, Bon, premièrement, j'ai pas 40 ans d'expérience encore au niveau du CAP, mais j'imagine bien, moi j'y suis arrivé au début des années 80. Oui, si vous voulez, bon, j'ai vécu par exemple au début des années 80 les plans de reconversion, hein, mm-hmm. quand même les plans de licenciement économique, etc., etc. Bon, là, on avait effectivement une demande particulière, on avait presque un public captif par rapport. Les demandeurs d'emploi étaient plus systématiquement mis en formation. Et ensuite, après, on a eu un reflux par rapport à ça, et on a dit non, les demandeurs d'emploi, on va plutôt les orienter directement vers l'emploi, etc. Et je pense, alors, on pourrait dire que c'est les années 90, ça a perduré un certain temps, et là, bon, effectivement, 2009, par définition, sera un tournant, ce qui me réjouit pas, bien sûr, mais je me demande si on va pas revenir vers quelque chose, à dire, ah oui, quand même, bon, le tout emploi, très bien, mais encore faut-il qu'on puisse en proposer assez, et que le passage par des formations, ou le... l'accompagnement par la formation pourrait peut-être revenir plus massivement, j'ai le sentiment. Mais bon, là, c'est difficile, on n'y voit pas encore très 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 clair. En plus, il y a la réforme de la formation professionnelle qui est en cours. Bon, c'est depuis hier qu'il y a peut-être, j'ai pas encore eu le temps de regarder aujourd'hui l'information, mais qu'il y a eu peut-être un accord ou pas. Et bon, donc effectivement, on va vers une nouvelle période. Ouais.
Est-ce que la crise économique, plutôt la crise financière qui a démarré en 2008 peut avoir des répercussions sur la demande qui peut vous être faite?
Oui. Alors effectivement, et souvent on dit oui, mais bon, la crise, elle date pas de 3-4 mois. On commence à dire, mais oui, mais vous savez, dans le secteur économique, on sentait déjà depuis un an et demi, les effets de la crise. Je dirais peut-être pas de la crise, mais en tout cas de la perte de pouvoir d'achat. Et comme je vous disais, on parle des demandeurs d'emploi, ce qui est un peu très important dans notre activité, mais on a aussi une activité de salariés, avec des personnes salariées, quelquefois sur temps de travail. On a des activités directes avec les entreprises, mais on a aussi des activités avec des salariés hors temps de travail, parce que bon, les demandeurs d'emploi, en général, n'ont pas les moyens de payer leur formation. Et donc, on a des activités avec ce qu'on appelle les particuliers. Et on avait effectivement noté dans certains secteurs une baisse assez notable de candidats à ces formations. C'est clair. Par exemple, en anglais, c'était clair que on a depuis un an une baisse relativement importante qui peut s'expliquer justement par ces effets-là. Alors, maintenant, quels seront les effets en 2009 par rapport aux entreprises? Pour l'instant, on n'a pas encore d'indicateur qui nous dit on n'a aucun indicateur qui dit, voilà, on plonge. Mais bon, ceci dit, il faut être très prudent, quoi.
Bien sûr. Donc, dans cette situation qui n'est pas encore bien limpide pour l'année 2009, est-ce qu'il y a des grands axes qui vous paraissent forts et avec lesquels vous souhaiteriez peut-être partager pas des points de vue, mais des actions avec d'autres partenaires?
Oui, si vous voulez, il est sûr que de toute façon, ce qu'il faut, c'est conforter l'appareil de formation, parce que je pense que ça correspond à une vraie demande sociale. Et donc, effectivement, actuellement, le mode marché, qui a des inconvénients d'une certaine manière, déjà ce mot-là, par rapport à de la formation. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu décalé, mais en tout cas, ça nous oblige à renforcer un partenariat, une négociation avec des associations qui se revendiquent, et on en est content parce qu'on vient de là aussi, de l'éducation permanente, avec nos collègues de l'enseignement secondaire, du Greta, etc. Et donc, effectivement, il y aura un axe, à mon avis, et on est tous quand même d'accord pour pouvoir conforter cette démarche. Et ce sera un axe fort, alors pas obligatoirement dû à la crise, mais par rapport au fait que le mode marché s'ouvre là bientôt, dans quelques jours, etc. Et ça, c'est important. Et ça peut effectivement nous renforcer, ça peut-être nous permettre de retrouver un nouveau souffle, parce que c'était vraiment plus d'actualité, autour de cette notion d'éducation permanente, de promotion sociale, etc., qui me paraît quand même une démarche intéressante et qui peut répondre quand même à la situation en partie, ça suffira pas, bien sûr.
On pourrait imaginer des états généraux de l'éducation permanente ou des choses comme ça.
Il y a déjà des choses qui se sont faites au travers de projets européens. Il y a un manifeste qui a été publié il y a quelques temps qui revient d'actualité. Il y a effectivement une démarche et il y a une demande autour de ça. Alors maintenant, nous, si vous voulez, on sera partenaire, on sera plus... il y a 40 ans, parce qu'on est né en même temps que Radio Campus, là, je vois que vous fêtez votre 40e année, grosso modo, on peut dire ça. Et il y a 40 ans, on était un peu, entre autres, pas les seuls, mais les portes flambeaux, si je puis dire, de l'éducation permanente. Actuellement, il y a bien de nombreux partenaires qui sont là, mais effectivement, pour nous, c'est important. Ceci dit, on doit aussi se conforter à notre rôle de composante universitaire et ces notions-là sont parfois un peu en décalage avec les orientations d'une composante universitaire. Mais bon, je pense que ce qu'il faut, c'est savoir garder l'histoire à l'esprit et savoir apporter, même à travers la recherche, notre laboratoire de recherche, à travers les démarches d'ingénierie, des apports qui permettront d'aider cette démarche.
Si vous aviez un ou plusieurs vœux pour 2009
La question piège. Oui, eh ben, un vœu, c'est de pouvoir perdurer et de pouvoir continuer avec l'ensemble des composants de formation continue de l'université et des autres universités de la région Nord-Pas-de-Calais, de pouvoir jouer ce rôle qui me paraît important par rapport aux apports qu'on peut faire au niveau de notre région. Et comme disait notre fondateur André Lebrun, pour les hommes et les femmes du Nord-Pas-de-Calais.
Jean-Louis Coget, je vous remercie.